Mikhail Andreevich Sorgin, ce doux nom, Natacha, 1925. En l'an de grâce 1925, la régie française, désireuse de venir en aide aux réfugiés russes, a jeté sur le marché des cigarettes Natacha au bout cartonné. De l'acheter aussitôt une boîte et lançant en l'air des halos irréguliers de fumée malodorante, je m'y mis à songer à ce doux nom auquel sont liés plusieurs souvenirs touchants de ma vie. Pas une seule Natacha adulte n'a croisé le fil de sa vie avec le mien. Mes souvenirs ne sont point de cet ordre-là. Mais il y eut plusieurs Natacha, petites et blondes, les unes réelles, d'autres créées par mon imagination, qui ont failli apporter, dans le brouhaha de mon existence, la lumière égale de la vie de famille. On faillit, mais ne l'ont pas apporté. Et que vois-je là-bas, à l'horizon, n'est-ce pas l'aube du coucher? On faillit, mais ne l'ont pas apporté, et donc ne l'apporteront plus. À l'époque où le soleil luisait encore haut à mon horizon, j'ai voulu adopter un enfant, pour savoir pour qui et pourquoi vivre. Je demeurais alors à Rome, en émigré politique, et on m'écrivit un jour de Russie qu'il y avait une petite fille appelée Natacha, dont la mère venait de mourir de tuberculose et dont le père se trouvait en prison. Ne voudrais-je pas m'en charger ? C'était en l'année 1907. Je demandais « Pour quelle raison le père est-il en prison ?» Si c'est un criminel de droit commun, ce ne sera pas un obstacle. Mais si c'est un délinquant politique, ne serait-ce pas par hasard un marxiste ? J'appartenais moi-même à cette époque au parti des populistes. De toutes les maladies, je ne craignais qu'un seul mal héréditaire, le mal des socialistes démocrates. On peut redresser les enfants défectueux selon le système de Montessori. Mais quant au marxisme, je l'ai toujours considéré comme un vice organique très grave. Est-il guérissable ? N'est-il pas causé par l'atrophie de la glande thyroïde ou de quelque autre glande importante ? N'est-il pas transmis aux enfants par atavisme comme le strabisme, le bec de lièvre, le rachitisme ou l'imbécilité héréditaire ? On me répondit, oui, le père est en effet un marxiste. Je dis, non, non, je ne puis me décider à prendre cette petite fille, la responsabilité est par trop grande. Et cette première Natacha ne devint pas ma fille. Nous demeurions alors dans une villa sur le littoral élevé de la Méditerranée, dans un charmant hameau de pêcheurs italiens. C'était au printemps. J'avais pour cabinet de travail une petite chapelle transformée, et j'y travaillais la nuit car le jour, le soleil brillait et la mer appelait. Comment voulez-vous que l'on écrive ? Nous vivions dans une communauté de jeunes où il n'y avait que deux couples mariés. Tard, un soir, une charmante jeune fille entra chez moi, s'assit avec gêne près de ma table et dit « Oncle Michel, si un homme m'a plu, que faut-il faire ?» Oncle ? Je n'étais point son oncle, mais j'étais l'un des plus âgés de la villa. Je lui ai demandé « Dites-moi, vous plaît-il beaucoup ?»« Oui, beaucoup. » Et ses yeux disaient « Beaucoup. » Alors je lui dis « Que voulez-vous ? Il n'y a pas à y réfléchir longtemps. Vous n'inventerez rien d'autre. » Que Dieu vous bénisse, c'est bête évidemment, mais que voulez-vous, l'homme est ainsi fait. Elle s'en alla, et moi je me dis, voilà qu'on commence déjà à me demander comment en pareil conseil en pareilles affaires. C'est flatteur et triste. Et j'étais un peu envieux aussi. Une autre nuit, j'avais travaillé jusqu'à l'aube. À l'aube, je sortis prendre l'air au jardin. Au moment de rentrer, je vis quelqu'un en fuite dans l'escalier. Elle se cacha sur le palier supérieur, mais mal. pieds nus, les cheveux défaits, des yeux étranges, ça trompe pas. Et je me demandais, qu'ont-ils besoin de se cacher ? Le soir de ce même jour, on nous servit un énorme plat de macaroni pour 15 personnes. Y a-t-il du vin ? Oui, en voici, 2 fiaschki. Alors je demandai la parole. Camarades, je propose de boire à la santé de nos gentils compagnons Hélène et Nicolas. Ils rougirent et nous bûmes encore et encore. Nous changeâmes la distribution des chambres de façon qu'Hélène et Nicolas ne fussent plus logés à 2 étages différents. Inutile dès lors de courir pieds nus dans l'escalier. En automne, ils partirent pour Paris. Lui avait un passeport, elle n'en avait pas. À cette époque, on ne demandait pas de passeport à la frontière, mais à Paris, il fallait avoir un permis de séjour. Plutôt que de les laisser se débrouiller et s'improviser un passeport, je leur donnais mon vieux permis de séjour parisien commun pour ma femme et pour moi. Ils seraient tranquilles ainsi jusqu'au moment où ils se seraient procuré ce qu'il leur fallait. Il était plus commode pour eux de porter un même nom. Ils s'étaient donc installés à Paris et un jour, ils m'écrivirent. Félicitez-nous, une fille nous est née. Il a fallu l'inscrire à votre nom, car nous n'avons toujours pas notre passeport. La petite s'appelle Natacha. Et je devins père. Une année plus tard, lui rentra en Russie. Le délai de son expulsion était expiré. Et elle revint en Italie, dans une autre agglomération d'émigrés russes, où j'allais 2 ou 3 fois par an. J'y vis ma fille, ma douce petite blondinette. Elle savait dire « papa », mais son papa n'était pas là. Et elle se mit à me dire « papa » à moi. Son vrai papa s'attardait en Russie. Maman s'énervait, maman pleurait, maman ne pouvait plus vivre toute seule, sans amis et sans but. Petite et frêle d'apparence, elle avait jadis été une terroriste. S'était enfuie de prison et ne pouvait rentrer légalement en Russie. Quelque chose de pénible et de compliqué se passait dans son âme. Ne cherchons pas à le pénétrer. Et elle décida de partir pour Paris, où se trouvait déjà à cette époque le centre de l'émigration politique, pour tenter peut-être de regagner la Russie. Le seul obstacle à ses projets était sa petite fille, Natacha. Mais il y avait l'oncle Michel, devenu maintenant papa Michel. Et elle me donna sa petite fille avec son extrait de naissance sur lequel j'étais inscrit comme le père et ma femme comme la mère de l'enfant. Mais je ne suis demeuré père que près d'un mois. La mère ne put rester longtemps séparée de son chef-d'œuvre aux boucles blondes. L'amour maternel l'emporta sur les élans révolutionnaires. Elle revint. Et pendant une longue série d'années, j'allais de temps en temps visiter celle qui m'avait été donnée, puis reprise, ma fille de nom, la petite Natacha. Et maintenant, en disant « papa », elle ne pensait plus qu'à moi. L'autre papa, papa Nicolas, était trop loin. Je lance en l'air des anneaux de fumée en tirant sur la cigarette française Natacha, et d'une main je caresse une grande enveloppe, jaune. À l'intérieur, dans d'autres petites enveloppes, se trouvent des boucles de cheveux dorés. Sur les enveloppes, des inscriptions. Les cheveux de Toussia, à 1, à 2, à 5, à 7 ans. Que voulez-vous ? Eh bien, oui, je suis resté très sentimental. C'est que, voyez-vous, je n'ai jamais été père, et c'est pourquoi il y a en moi tant de tendresse paternelle inépuisée. Ces reliques étaient conservées dans mes archives de Rome. Je les ai trouvés et les ai rapportés ici, et je les garde dans le tiroir de mon bureau. Mais où est donc est-elle, ma fille? Je l'ignore. Je sais seulement qu'elle est en Russie. Je me rappelle en 1917, les derniers émigrés revenaient en Russie. Un coup de sonnette à ma porte, j'allais ouvrir. La mère et la petite entrèrent et cette rencontre aurait été joyeuse si, dans les yeux de la mère, il y avait eu de l'effroi et du désespoir. Vous arrivez de la gare? Non, nous avons été encore ailleurs. Pendant qu'on lavait, peignait et restaurait la petite fille, la mère, assise dans mon cabinet, me racontait d'une voix entrecoupée, avalant ses larmes. Il ne m'avait pas prévenu, évidemment, il ne pouvait pas. Il n'y a pas de poste régulière. J'ai sonné, j'ai demandé. Monsieur est-il là? La bonne m'a dit. Monsieur est en voyage, mais madame est là. Madame, quelle madame? Mais ça, madame. Et nous sommes partis, j'ai tiré Toussia par la main. Mais écoutez, pourquoi n'êtes-vous donc pas venu chez moi d'abord? Je vous avais cependant écrit. Étonnée, elle me dit. Mais papa Michel, je croyais rentrer chez moi. Il ne m'a pas écrit un seul mot pour me dire que je ne pouvais pas venir chez lui. Après un silence. Vous croyez que je le blâme pour ça? Non, pas pour ça, mais pour sa lâcheté. Je lui ai télégraphié en route, pensant qu'il viendrait à la gare. Et lui, il a fui. J'arrive de la gare, je sonne, et Toussia a tout entendu. Elle s'y éveillée. Elle m'a demandé. « Maman, papa Nicolas n'est pas là. Il n'y a que madame. » Je l'ai vite emmenée. Que vais-je faire maintenant? Puis on amena Natacha, propre, mais point gaie. Et sa mère dit. « Tenez, papa Michel, voici votre fille. Toussia, voici ton papa Michel. » Papa Michel ne resta pas père longtemps. En dehors de lui, des drames humains se déroulaient. Mais dans les moments les plus tragiques, les deux parties venaient frapper à sa porte. Un homme échevelé, confus, une femme amaigrie, au nerf complètement ébranlé. Papa Michel les aimait beaucoup, mais aurait souvent voulu les envoyer au diable. Lorsqu'il en eut définitivement assez, il leur dit « Là, vous êtes fous tous deux. Je regrette vivement de vous avoir béni jadis avec des macaronis et du vin italien. Que me voulez-vous encore ?» Un jour, il leur dit à tous deux de venir à la même heure. Chacun vint sans savoir que l'autre serait là. Et alors, papa Michel ouvrit bien grand la porte de ses deux chambres contiguës, poussa dans le cabinet où se trouvait la mère de Toussia, l'homme échevelé et confus, et leur cria d'une voix irritée « Tenez, vous voici tous deux, battez-vous, embrassez-vous, séparez-vous, réunissez-vous, mais laissez-moi tranquille !» Il partait de chez lui et ne rentra qu'une heure plus tard. Il les trouva tous deux assis sur le divan avec des physionomies idiotes de jeunes amoureux. C'était écœurant, et papa Michel était sombre et furieux. Quand les deux idiots tentèrent, avec une feinte indifférence, d'adresser la parole à papa Michel, en prenant bien entendu, ainsi qu'il sied à toutes personnes heureuses et raisonnables, un ton protecteur, papa Michel sortit de son tiroir l'extrait de naissance de sa fille et le tendit aux nouveaux parents. L'homme échevelé ne manqua pas de faire observer qu'il faudrait un acte notarié. La renonciation de papa Michel à ses droits paternels eut la faveur des parents de Natacha. « Si drôle que cela paraisse, dit-il, il vous faudra nous autoriser à adopter notre propre fille. » Papa Michel est avocat. Il rédigea un papier et le fit légaliser. Si drôle que cela paraisse, il renia sa fille. Si drôle que cela paraisse, lui qui toute sa vie durant avait chéri le rêve d'avoir une fillette blonde, il en fit cadeau à ce couple de fous. Et papa Michel cessa d'être le père de Natacha. On emmena l'enfant dans une autre ville et il ne la vit plus jamais. Il réunit des contes écrits pour des enfants d'autrui, les édita en un volume intitulé « Contes et autres choses » et inscrivit à la première page cette dédicace « C'est à toi, petite fille Toussia, ma fille de nom, mon héroïne constante, que je dédie ce recueil. Tout comme toi, ces contes sont nés en exil. Tout comme en toi, le puéril s'y mêle au sérieux. Je ne les avais point écrits pour toi. À cette époque lointaine, la terre ne baissait pas encore les petits pieds. Mais je les ai réunis pour toi, pour pouvoir, par la promesse de te lire ce petit livre, sur un divan moelleux, l'attirer en Russie, du lointain et merveilleux pays où nous nous chauffions jadis aux rayons du soleil étranger. Quelques années plus tard, revenu en exil, il apprit incidemment que son livre avait été traduit en italien et publié à Milan. Il se le procura et apprit dans l'avant-propos du traducteur que l'auteur du livre est allé à la guerre et a disparu sans laisser de traces. Mais il ne fut point grief à l'éditeur ni au traducteur d'avoir disposé de son livre sans autorisation. Pouvait-il leur en vouloir, puisqu'ils avaient si bien choisi le titre du petit volume emprunté à l'un de ses contes, Rondinella Natacha, Natacha l'hirondelle. Je fume encore une cigarette française, Natacha, au bout cartonné, et je songe que tout cela s'est passé il y a terriblement longtemps, dans une autre existence et sous une autre latitude. Et je songe aussi que le cycle des Natacha ne se borne pas à ce que je viens de raconter. Il y eut encore une autre candidate à la fondation du bonheur familial du stérile papa Michel, à la fibre paternelle si sensible. Le bonheur et le malheur de ceux qui écrivent consistent à noyer dans l'encre et à transposer sur le papier le trop-plein de leurs émotions. Si la cigogne a refusé de m'apporter une fille, si toutes mes recherches sous les feuilles de chou furent vaines, rien ne pouvait pourtant arrêter mon imagination. Je devins alors père d'une petite fille aux boucles blondes, aux yeux bleus, née d'une union avec l'imagination. Elle n'était pas ma fille par le sang, mais elle était par l'esprit, fruit d'un amour spirituel. Je l'ai élevée dès les premiers mois de son existence, et cet être minuscule, rempli d'une signification nouvelle, toute ma vie personnelle. Ses premiers pas hésitants, son premier mot, le premier bâton qu'elle traça au crayon, tout cela était inscrit et enregistré dans un précieux journal de Toussia, le journal de mon trésor inappréciable. Je lui parlais, à elle, qui était née sous le ciel italien, de la neige légère, de la forêt des pins, du lièvre qui a toujours une oreille dressée, de la rivière où poussent les nénuphars si semblables à des tasses de porcelaine sans anse, de notre pays qu'elle verrait un jour. Je lui donnais tout l'amour d'un père stérile et toute la tendresse léguée par sa mère morte prématurément, par celle qui n'avait jamais été ma femme, mais seulement ma compagne spirituelle. Et nous vécûmes tous deux, retranchés par notre amour du reste de l'univers, qui ne servait que de fond indispensable à notre vie, mais en son essence ne nous était pas nécessaire. Il n'était qu'un bruit familier, à peine perceptible. Et soudain, l'absurde et l'effroyable se glissa près de nous. Ma Toussia tomba malade. Je passai près de son lit des jours et des nuits, luttant contre l'horrible bourreau obstiné à se saisir de la vie de ma petite qui n'avait point encore vécu. Et je parvins à la lui arracher, mais pas pour longtemps. Après avoir surmonté la crise de la maladie, ma petite fille n'eut plus la force de revenir à ce monde qui lui préparait tant de joie. La neige blanche, la rivière au nénuphar, la forêt de pins, le lièvre à l'oreille dressée. Au bord de la mer où je l'avais emmenée, une ondine, petite comme elle, sortit de l'eau et lui fit signe. Et ma fille unique, l'enfant de mon imagination, commença à dépérir lentement. Ce fut à l'aube d'une claire journée. Un traîneau blanc sortit du lointain laiteux de la mer, et des chevaux blancs menèrent ma petite fille, ma Natacha. Ils l'emmenèrent dans un autre monde, inaccessible encore pour moi. Une chose était arrivée qui n'a pas de nom, qui ne peut avoir de sens, à laquelle ni l'esprit ni le cœur ne peuvent survivre. J'eus un rêve affreux et je ne pus m'éveiller. Les écrivains, ce sont des conteurs de mensonges, mais il arrive à chacun d'entre eux de vivre une fois son mensonge dans toute son intensité. C'est à l'époque de sa création. Cela s'appelle, je crois, de l'inspiration. Je mis 2 ans à décrire la nouvelle en question, et je subis une vraie torture au moment où ma petite héroïne tomba malade. Je ne savais jusqu'au bout si je pourrais l'arracher aux griffes de la mort, et les derniers chapitres furent pour moi une réelle souffrance. Je pense que ce n'est pas ainsi qu'il faudrait écrire. L'art exige un esprit calme et détaché. Actuellement, alors que plusieurs années se sont écoulées, je vois parfaitement tous les défauts de mon œuvre. Mais alors, je le voyais clairement, jusqu'à son moindre détail, jusqu'à son grain de beauté, jusqu'à son petit ongle rose, que ma Natacha, qui n'était jamais née, n'avait pas vécu, et que je ne l'aimais pourtant pas moins que j'aurais pu aimer une enfant en chair et en os. Un jour, ayant relu pour la dernière fois mon grand manuscrit intitulé « Ma fille », je l'expédiai en Russie pour être imprimé. Ce jour s'est gravé dans ma mémoire parce qu'il a été marqué d'une surprise stupéfiante, d'une de ces coïncidences bizarres qui ne se répètent jamais. C'était à Rome. Ayant remis mon manuscrit à la poste, j'avais traversé la rue et j'étais entré dans le célèbre café Ragno, où se réunissait tous les jours la confrérie internationale des hommes de lettres. Je m'assis à une table et l'on me présenta un journaliste bulgare, un homme de haute taille, sérieux et réservé. Nous échangeâmes quelques phrases. Lorsqu'il eut pris congé et fut parti, l'un de mes amis me dit « Savez-vous, ce bulgare a une fillette, Natacha, toute blonde et blanche et si gentille. Oh, il l'a amenée à ma petite fille pour qu'elle joue ensemble. » Elle raconte qu'il la bat et voudrait, semble-t-il, s'en débarrasser. Il bat sa petite fille? Oui, pourtant c'est un amour d'enfant, très caressante. Mais quel âge a-t-elle? Ou 5 ans, pas davantage. L'enfant blonde de mon imagination s'était appelée Natacha. Elle avait 5 ans au moment où la mort me l'a arrachée. Elle avait eu des yeux bleus et avait été très caressante. Mais moi, j'avais été meilleur père. Le lendemain, je retrouvai au même endroit le journaliste bulgare. Il était seul. Je m'assis en face de lui et lui demandai « Vous avez amené avec vous votre petite fille? J'ai entendu dire que c'est une enfant délicieuse. »« Oui, elle est gentille. » Ne s'appelle-t-elle pas Natacha? Si! Je voyais qu'il ne parlait pas volontiers de sa petite fille. Alors je lui dis franchement, écoutez, je suis seul, je gagne passablement bien ma vie, et j'aime les enfants. L'on m'a raconté que pour certaines raisons, vous pouvez ne pas me répondre, que vous seriez disposé à confier pour un certain temps Ou peut-être définitivement votre fille à quelqu'un d'autre, car elle vous gêne. Si c'est vrai, je voudrais m'en charger. » Il me répondit simplement: « Oui, c'est exact. Mais consentirez-vous à vous en séparer pour toujours, pour qu'elle vous oublie et nomme un autre son père ? Attendez avant de répondre. Écoutez-moi encore. Je viens de vous le dire, je prendrai votre fille sans l'avoir vue. Mais vous devez y renoncer définitivement et ne plus la revoir, qu'elle ne devienne grande. Je l'adopterai et nous régulariserons notre renoncement pour autant que c'est possible devant les délégations russes et bulgares. Je suis un émigré politique, mais je m'engage à régulariser tout. » Il réfléchit un peu et dit: « Ma foi, oui, c'est acceptable. Je ne vous cacherai pas ce que vous avez déjà entendu dire, que ma petite fille me gêne. Elle est née à Pétersbourg au moment où j'y faisais mes études. Sa mère est russe. Notre liaison était restée secrète et nous avons réussi à cacher aux parents la naissance de l'enfant. La petite a vécu d'abord dans un orphelinat, puis chez une brave femme. Puis, il n'y a pas bien longtemps, je l'ai prise. Mais il faut vous dire que moi, je me suis marié en Bulgarie. La mère de Natacha s'est mariée à Pétersbourg. Oh, le passé est oublié depuis longtemps. Pour diverses raisons, compréhensibles d'ailleurs, il me faut cacher que j'ai une fille. Il est évident qu'elle me gêne. » Alors, par conséquent, vous êtes d'accord ? En principe, oui, mais nous ne pouvons guère discuter ici les détails. Permettez-moi de venir vous voir demain avec la petite. Vous pourrez la voir et nous causerons. » Parfait, alors venez donc déjeuner. Le lendemain matin, l'appartement du petit fonctionnaire italien dont j'occupais 3 pièces était en émoi. Ayant appris que j'attendais une petite visiteuse qui allait peut-être devenir ma fille adoptive, mon gros habit et domestique, mon échevelé malpropre, mes tendres et soucieux Serafino, ne fut pas moins ému que moi. L'eau pour les macaronis bouillait à gros bouillon, la poussière fut balayée même sous les divans. Sur ma table, à écrire, s'étalait, les bras écartés, une poupée neuve aux grands yeux, un gros nœud de soie dans les cheveux. Dans la salle à manger luisaient 3 couverts et 2 bouteilles, du Chianti rouge et du Frascati couleur d'ambre. Dans l'escalier, derrière les portes entr'ouvertes, veillaient nos voisines auxquelles Serafino avait confié l'événement attendu. Je demeurais depuis 5 ans dans ce grand immeuble du quartier ouvrier, aux fenêtres donnant sur la place du Risorgimento et sur le Vatican, et tous mes voisins étaient de mes bons amis. Vers midi, j'allais et venais nerveusement dans mon cabinet de travail, tentais de m'asseoir sur le divan, me levais d'un bond, arrangeais les livres sur les rayons, ouvrais et refermais mon encrier et allumais cigarette après cigarette. Serafino, affublé d'un tablier qui recouvrait son gros ventre, passait à tout moment son visage soucieux à l'entrebâillement de la porte et disait: « Vedra, ma stia tranquillo, che tutto va benone. » Mais voilà qu'on sonne. Je m'assieds dans un fauteuil près de la table et m'efforce de paraître calme. J'entends des pas d'enfant. Puis, devançant son père, une petite fille paraît à la porte, sourit et court à moi. C'était elle, ma Natacha, l'héroïne de ma nouvelle. Quand je n'étais pas le seul à la reconnaître, nous nous reconnûmes l'un l'autre. Elle accourut, grimpa sur mes genoux, m'entoura le cou de son bras et saisit aussitôt la poupée. À la porte se tenait un homme sérieux et barbu de haute taille, et mon Serafino, dont les yeux étaient humides d'attendrissement. C'était elle, il était impossible de s'y tromper. C'était ses yeux, ses cheveux d'or clair, son rire d'or clair également, sa chaleur et son contact. C'était cette petite fille, Natacha, que je m'étais inventée à moi-même, à laquelle je parlais des pins, du lièvre et de la neige blanche. Elle passa près de 2 heures avec moi, et je ne découvris pas un seul geste qui ne me fût familier. Nous nous sourions, et l'homme barbu était un étranger lointain, un témoin fortuit de notre bonheur. Il me semblait même qu'il nous considérait avec une certaine ironie, ou peut-être une certaine hostilité. Nous ne pûmes causer avec lui. J'étais trop occupé de Natacha et l'on ne pouvait parler devant elle. En nous quittant, nous prîmes rendez-vous pour le lendemain au café. Natacha porta avec elle la grande poupée et nous laissa pour toute la journée son sourire. Après son départ, je tentais d'être sérieux, mais les coins de ma bouche sautillaient. Serafino ne voyait pas la nécessité de se contenir. Il bavardait sans trêve, poussait des exclamations, invoquait l'opinion enthousiaste des voisines, celle de la Sora Julia principalement, qui avait des enfants à ne savoir qu'en faire, et s'y connaissait. Il faisait des projets de déplacement de meubles, et me vantait le magasin dans lequel on pouvait acheter à bon compte le meilleur petit lit d'enfant. Il avait apparemment l'intention de devenir lui-même bonne d'enfant. Mon pauvre Serafino, mort depuis longtemps, mon meilleur ami italien et sincère, absurde et bon. J'arrivais au café bien avant l'heure du rendez-vous. Je m'assis à la table d'un ami italien, le directeur de la bibliothèque publique. C'était un russophile et un connaisseur de la langue russe. Je ne pouvais parler que de ma joie et je ne pus plus me retenir de confier à mon ami l'événement extraordinaire de ma vie. Il me demanda « Qui est le père, un bulgare? Quel est son nom ?» Je le lui nommai. « Écoute, me dit-il, je n'ai pas le droit, au fond, de t'en parler, mais je ne voudrais pas que tu aies des ennuis et de gros. Il faut que ce que je vais te dire reste entre nous. Ce Bulgare va être arrêté. » Et il me conta. Grâce à ma connaissance du russe, j'ai parfois à traduire des documents pour notre ministère des Affaires étrangères. Je viens justement de traduire des papiers joints à un document secret du gouvernement russe transmis par votre délégation. Ce document est une demande d'arrestation immédiate d'un journaliste bulgare, P, accusé de chantage. Il a amené avec lui sa petite fille, née d'une liaison avec une jeune fille de l'aristocratie de Pétersbourg. La jeune femme s'est mariée tout récemment en cachant son passé à son fiancé. Le Bulgare en question cherche actuellement à la faire chanter, lui soutire de l'argent et la menace de tout raconter au mari. Il y a longtemps déjà que ce chantage dure et elle en est venue à la décision de se confesser à son mari. Le mari semble devoir être un homme de cœur et comme ils n'ont point d'enfant, ils ont décidé de prendre cette fillette. Pour désarmer ce père escroc, ils ont montré ses lettres et ses télégrammes et ont obtenu l'intervention du tribunal russe. La légation de Russie exige actuellement l'arrestation de l'homme. Ainsi que je l'ai dit, il sera prochainement arrêté. C'est un secret, bien entendu, et tu me promets de ne rien dire moi à quiconque, n'est-ce pas? Je promis. J'étais abasourdi et abattu. Je n'eus pas à garder ce secret pendant longtemps. Mon ami à peine parti, des journalistes arrivèrent du télégraphe, et la première chose que j'appris d'eux fut cette nouvelle. « Savez-vous, on vient d'arrêter au télégraphe un Bulgare, cet homme barbu avec lequel vous avez vu ici. Il était en train d'expédier une dépêche pour Pétersbourg et on l'a pris près du guichet. Je ne demandais qu'une chose. Et sa fille, Natacha? Oh, la petite est probablement à la maison ou peut-être chez les amis. La pauvre enfant. Il faisait déjà nuit. Le lendemain, je me présentais premier visiteur au consulat russe. Malgré ma qualité d'émigré, étant le correspondant d'un grand journal, je connaissais tous les diplomates, tout comme ils me connaissaient. Le consul fut un peu surpris de me voir dans la salle d'attente, et s'étonna encore davantage lorsque je lui déclarai « On a arrêté hier à Rome, sur la demande de la légation, un journaliste bulgare, P. Vous êtes certainement au courant de la chose. » Je ne connais absolument pas ce monsieur P. Je l'ai vu deux fois et son sort ne m'intéresse nullement. Je m'intéresse uniquement à sa petite fille, âgée de 5 ans. Où se trouve-t-elle? Le consul se taisait. Il dit enfin, sans enthousiasme, ce ne sont pas des affaires sur lesquelles on peut se renseigner dans un consulat. Et d'ailleurs, je continuais avec émotion. Mais j'ai vu cette fillette une seule fois, il est vrai. Je me suis attaché à elle. Je n'ai pas d'enfant et j'ai un gain assuré. Le sort du père, je vous le répète, ne m'intéresse pas. Mais la petite reste seule, sans soins. Il faut que l'on s'en occupe. Permettez-moi de vous déclarer que je suis prêt à la prendre immédiatement. Si la chose apparaît possible, je l'adopterai, sinon je pourrais la recueillir chez moi, l'entourer de soins, lui trouver une bonne, lui servir de père, faire tout enfin. Le consul sourit. Oh, je vous comprends bien, mais cet enfant a déjà un tuteur, il est là. C'est lui-même qui a apporté les papiers. Sa mère la reprend chez elle, à Pétersbourg. On m'enlevait ma fille. Mais ne pourrais-je pas, là, lui venir en aide d'une façon ou d'une autre, la revoir au moins pendant qu'elle est encore à Rome? Je me suis tant attaché à elle. La revoir, oh, je ne le pense pas. Mais au moins, écoutez, ne pourrais-je pas lui envoyer au moins un jouet? Je vais l'acheter aussitôt, lui envoyer peut-être une poupée. Le consul regarda sa montre. « Je regrette beaucoup, dit-il, et je vous comprends. C'est en effet une fillette délicieuse, je l'ai vue brièvement. Mais c'est une malchance. Vous ne pourriez guère, le train part en ce moment même. Le tuteur part avec la petite, vous n'auriez plus le temps. L'affaire est si délicate, il était très pressé. Je regrette beaucoup. » Je fis demi-tour et je m'en allais. Ma fille, ma petite Natacha vivante, réelle, était perdue pour moi, perdue sans retour. Le soir, j'étais couché sur mon divan. Serafino s'était placé à côté de moi sur une chaise et tirait sombrement sur son affreuse pipe. « E una vera disgrazia, Eggia, povero, sor Michele. » Je me taisais obstinément et lui marmottais, branlant la tête, « Ma guarda un proche bonacia sto bulgaro, una ragazzina così bella, Madonna Santa, povero cocomio, sor Michele. » Et il me caressait la joue de sa main lourde et humide de sueur. Je tire une dernière cigarette du carton bleu sur le couvercle duquel le peintre a tenté de représenter un hiver russe. Le tabac est affreux, mais la cigarette s'appelle Natacha. La direction de la régie des tabacs est positivement aimable. Merci. Je voudrais vous conter encore un autre cas étrange, relié d'une façon lointaine au précédent. C'était à Moscou, durant les années de communisme militaire et d'épidémie de typhus. Je me tenais derrière le comptoir de la petite librairie des écrivains dans la rue Léontievski. Nous avions un grand nombre d'acheteurs et mes mains étaient lasses de froisser le papier d'emballage et de faire des nœuds. Une toute jeune fille, au visage ouvert et agréable, quoique point jolie, s'approcha du comptoir. Pourrais-je vous parler? Je vous en prie. Mais pas ici, il me faudrait. Veuillez alors attendre une seconde. Je vais me rendre libre. Nous possédions à l'étage supérieur un dépôt et un bureau modeste. Je l'y fis monter. Si, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous servir? Elle, sans baisser les yeux, rougissant seulement, me dit d'un ton presque affairé, « Je voudrais avoir un enfant de vous. » On se figure aisément ma stupéfaction. Quoique nous nous fussions habitués dans la Russie d'alors à ne nous étonner de rien. Et elle continua rapidement, « Mais il ne faut pas que vous croyiez que je suis... Non, ne vous étonnez pas de ce que je parle aussi franchement. Je suis vierge, mais cela ne fait rien, c'est-à-dire au contraire. » Attendez, quel âge avez-vous? Comprenez-vous bien ce que vous dites? J'ai 18 ans, et bien sûr que je comprends parfaitement. Mais pourquoi 2 mois? D'où me connaissez-vous? Je vous ai vu quelquefois. Je suis déjà venu à la librairie avec un ami, et puis j'ai lu votre nouvelle intitulée « Ma fille ». Et alors j'ai décidé que je veux que vous ayez une fille réelle. Je me mis à rire. Écoutez, vous êtes enfin à un point inconcevable. Que dites-vous là? Allez, abandonnez vite cette pensée. Pourquoi vous ai-je donc vexé? Mais non, voyons, je vous suis reconnaissant de vos bons sentiments et de ce que vous êtes si étonnante. Mais je ne puis pourtant pas discuter cela avec vous. Mon Dieu, est-il possible d'être aussi enfant? Mais je ne suis pas une enfant du tout et comprends parfaitement. Excusez-moi, quel est votre nom?
Mon nom? Je m'appelle Natacha, et l'on pourrait appeler également Natacha, elle...
Allons, Natacha, levez-vous, descendons. Vous êtes une petite fille tout à fait drôle, venez. Elle sortit docilement. En l'accompagnant, je m'efforçais de plaisanter très prudemment toutefois pour ne point froisser cette étrange jeune fille. Je parlais de choses indifférentes, lui demandais des nouvelles d'un homme qu'elle venait de nommer et que je connaissais depuis longtemps comme client assidu de notre librairie. Elle examina distraitement quelques livres et s'en alla. Et en prenant congé, elle me dit, avec confusion,
« Seulement, voilà, je ne suis pas du tout une petite fille, et je comprends parfaitement. »
3 semaines environ passèrent. Je vis plusieurs fois venir à la librairie l'amie de l'étrange jeune fille, mais elle-même ne revint plus. Un jour, je demandai au jeune homme des nouvelles de la jeune visiteuse qu'il avait accompagnée parfois. Je la lui décrivis brièvement, il se rappela aussitôt.
« Ah, Natacha, c'est une charmante jeune fille, et point sotte. Je connais sa famille, et la connais depuis son enfance. C'est un peu une rêveuse. Figurez-vous qu'elle est malade, et assez sérieusement.
Qu'a-t-elle? Le typhus, probablement. Une température terrible, quel dommage. » Quelques jours plus tard, il me rencontra dans la rue et m'arrêta. « Vous souvenez-vous de la jeune fille dont vous m'avez parlé, de Natacha ?»«
Mais oui, comment se porte-t-elle »«
Elle est morte hier. »« Quel malheur, à 18 ans, où allons-nous »« Nous nous tûmes. » Puis, nous serrant la main, nous nous quittâmes. La mort était partout et l'oreille était habituée à des nouvelles de ce genre. L'horreur guettait chacun à chaque pas. Typhus, exécution, n'est-ce pas la même chose? La vie est pleine de cas fortuits et des plus horribles. À ce propos, comment, si ce n'est par un hasard, faut-il expliquer la direction de la régie française dans son désir de satisfaire le consommateur russe et choisit pour ses cigarettes un bout de carton, ce nom qui ne dit rien à l'oreille française et qui mendie si long à moi, ce doux nom, Natacha.